Chapitre 61. Karl secoue son poignet auquel est attachée une Rolex noire, comme s'il voulait aider le mécanisme du remontage automatique. Puis il regarde Saga. Elle boit une gorgée, pose son verre, passe la main sur sa bouche et tourne la tête vers lui. « Tu n'as pas le droit d'écrire quoi que ce soit sur ce que je vais te raconter. »« D'accord, » répond-il en se rongeant l'ongle du pouce. « Tu comprends ?»« Oui, je comprends. » acquiesce-t-il. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle s'assied sur le tabouret de bar en face de lui et prend une profonde inspiration. « J'essaie d'arrêter un tueur en série et je suis moi-même suspecté d'être impliqué dans les meurtres. »« Dans les meurtres ?» demande-t-il.
« Je crois, oui. »
soupire-t-elle. « Pourquoi tu le crois ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ?»«
Mon contrat de travail a été suspendu. Et aujourd'hui, mon appartement a été pris d'assaut par un groupe d'intervention de la police nationale. »«
C'est vrai ?»«
Oui. »
Une veste froissée à la doublure usée est suspendue à un crochet sous le comptoir. On entend la télé à l'étage supérieur. « Tu peux m'expliquer pourquoi tu es suspecté ?» demande Karl.
« J'ai beaucoup travaillé seul, hors du cadre de la police.
Ils vont vite réaliser qu'ils se trompent. Mais tu n'es pas impliqué dans les meurtres. »
« C'est une question ?»«
Oui. »
« Non, je ne suis pas impliqué dans les meurtres. »
répond-elle d'une voix calme. Saga jette un œil dans la pièce voisine. Une housse en plastique recouvre le shuffleboard américain. Le canapé, la table et le sol sont jonchés de détritus, vieilles canettes de bière et de boissons énergisantes, magazines, sachets de chips, emballages de bonbons et de biscuits et un sac McDonald's.
« La NOA sait qui est le tueur, » dit-elle, « mais il semble penser que je coopère avec elle.
C'est donc une femme ?»
Elle s'appelle Mara Makarov, et c'est grâce à toi qu'on a réussi à la trouver.
Elle a rendu visite à Yakov Fauster à plusieurs reprises en prison.
« C'est vrai ?»
dit-il, en esquissant un sourire involontaire. Saga enlève son coupe-vent, le roule et le pose sur le bar. Son t-shirt vert est à l'envers et la bandoulière de son holster est enroulée.
« C'est donc Fauster le lien entre elle et Jurek ?»
demande Karl.
Pas seulement.
Elle sort son pistolet de l'étui, fait tomber le chargeur dans sa main gauche et éjecte la cartouche engagée dans le canon.
Comment ça?
Il semblerait que Jurek Walter ait tué toute sa famille. Répond Saga.
Cette histoire ne me dit rien.
Elle réintroduit la cartouche dans le chargeur, le replace dans la crosse et rengaine l'arme.
Ce que je sais, c'est qu'elle se trouvait dans le service de psychiatrie d'Itéreux quand tu as écrit ton article sur Jurek,
dit-elle en montrant le texte encadré. L'un des exemplaires écoulés avant que l'édition ne soit saisie s'est apparemment retrouvé dans la salle de jour de l'institution. Mara a immédiatement reconnu Jurek comme étant l'homme qui avait drogué et enlevé sa famille. Elle a demandé à son psychologue de me contacter.
Mais il la considérait comme psychotique.
Oui et non. Parce qu'il m'a appelé et m'a parlé de sa patiente et de ce qu'elle lui avait dit.
Saga se tait
et se remémore la conversation avec le psychologue. Elle se souvient avoir écouté, posé des questions complémentaires et pris des notes. Mais il était trop tard. Elle s'était déjà perdue dans le labyrinthe obscur de Jurek.
Tu as cru à son histoire ?
Je n'ai pas douté du fait que Jurek avait enlevé sa famille. Mais en même temps, l'endroit d'où elle s'était échappée, un nom comme Emojav et Yavé, ne donnait aucun résultat. Qu'est-ce que je pouvais faire? Sillonner toute la Suède et toute la Russie avec des chiens policiers?
Elle se tait à nouveau, regarde fixement devant elle et pose sa main sur le comptoir du bar.
Et donc, qu'est-il advenu de son dossier?
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Tu sais comment ça s'est passé. Je n'ai sauvé personne. J'ai tout raté.
C'est sans doute pour ça que mes collègues pensent que j'aide Mara Makarov à se venger.
Comment se venge-t-elle?
Elle a tué des proches de Juna et moi. Plusieurs collègues. Elle déteste la police parce qu'elle n'a pas sauvé sa famille. Elle est obsédée par moi. Et elle déteste Juna plus que tout. Pourquoi? Parce qu'il s'est enfui, alors qu'il aurait pu arrêter Yurek. Parce qu'il a choisi de sauver sa fille avant tous les autres. C'est humain. Mais ceux comme moi qui sont restés ont payé le prix fort. Tu es en colère contre lui?
Oui, je le suis.
Et je me fous que ce ne soit pas tout à fait juste. Elle attrape son sac à dos et sort son ordinateur et le journal de bord manuscrit.
Tu dois te rendre et tout leur raconter.
Je n'ai pas le temps, dit-elle en allumant son ordinateur.
C'est la seule chose sensée à faire.
Comment ça?
Te rendre, prendre un avocat, c'est impossible.
Pourquoi tu ne peux pas?
Plus de questions,
l'interrompt-elle. Je suis désolé, mais je dois réfléchir. Saga ouvre le journal de bord de Sven Ove Kranz, trouve les notes qu'il a prises aussitôt après la séance au cours de laquelle Mara lui a demandé de la contacter dans l'espoir de sauver sa famille. Le psychologue décrit brièvement comment il se rend dans la salle de jour, feuillette le journal et trouve l'article avec les gros titres et les photos.
À mon avis, ce texte est spéculatif et superficiel. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'un tueur en série et d'une enquête à son sujet qui serait classée confidentielle, même si les meurtres et les tentatives d'enlèvement dans l'école maternelle sont probablement réels. Mais en même temps, si l'inspectrice Saga Bauer a effectivement travaillé sur l'affaire avec la NOA, c'est probablement plus compliqué qu'un simple litige pour la garde d'un enfant.
Dans la note suivante, Sven Ove informe Mara qu'il a transmis son témoignage à l'inspectrice Saga Bauer. Il apparaît alors clairement qu'après ça, Mara entre dans un épisode maniaque. Elle est obsédée par l'idée de sortir pour aider la police à sauver sa famille. Saga se remémore l'appel téléphonique du psychologue du service de psychiatrie d'Itéreux. Il semblait chaleureux, empathique et éloquent. Il lui avait parlé d'une patiente anonyme qui avait témoigné d'expériences effrayantes liées à son enquête. Saga avait archivé les données et l'enregistrement de la conversation, mais elle se souvient clairement qu'elle avait eu le sentiment que les informations de Kranz commençaient à tourner au fantasme psychotique quand il avait mentionné le lien entre Yurek et le KGB. « Votre patiente, dit-elle, où cet homme a emmené sa famille ?» avait-elle demandé.
« Non, elle ne se souvient pas. Juste d'un panneau avec le nom Emoja Veyave. Peut-être quelque part en Russie ou peut-être en Suède. »
avait-il répondu. Même si cette famille existait réellement et était encore en vie, l'enquête était impossible. Saga se trouvait déjà dans une situation extrême qui ne tarderait pas à s'aggraver pour finalement aboutir à un désastre total.